Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames, Messieurs, bonjour. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, on va recevoir le professeur Juan Luis Arzuaga de l'Universidad Complutense de Madrid. J'ai jamais fait d'espagnol. Juan est à l'origine des grandes découvertes à Atapuerca. Donc, on a déjà rencontré Eudald Carbonel et on va rencontrer aujourd'hui Arzuaga. C'est beaucoup de chance, hein, parce que je ne l'ai pas vu. En principe, il a dû arriver cette nuit de Madrid à Paris et je vais le découvrir comme vous, j'espère, tout à l'heure, vers 11h. Avant de commencer, on m'a demandé tout à l'heure de présenter mes assistants ou de les représenter. Ce qui m'a fait remarquer que j'en ajoutais au fur et à mesure et qu'à la fin, on finissait par plus y retrouver. Alors, surtout, vous avez bien compris, j'amène des fossiles parce que je suis avant tout paléontologue, parce que je suis un homme de terrain, parce que je ramasse des fossiles, parce que je travaille avec des fossiles, parce que si je peux vous raconter des histoires, c'est parce qu'il y a des fossiles. S'il n'y avait pas de fossiles, il n'y a pas d'histoire. Mais j'amène des fossiles et il ne faut pas que je vous fasse passer de mauvaises idées, de mauvais messages. Quand on voit comme ça là, une file indienne, il ne faut surtout pas penser que celui qui est le plus loin là-bas, c'est l'ancêtre, etc., etc., et que tout ça, c'est rectilinéaire. Il y en a qui pensent ça. Ce sont les tenants, par exemple, du dessin intelligent ou les néo-créationnistes. Il est clair que notre évolution, j'espère vous avoir un peu montré ça, est quelque chose qui est très buissonnant, hein, et non pas du tout rectilinéaire comme on pourrait le penser en regardant ces jeunes gens ici à ma droite. On est bien d'accord, hein. Je ne veux pas que vous alliez répéter après, Brunet nous a amené des trucs et puis voilà quoi, et les amis. Elle, c'est Mrs. Pless, Australopithecus africanus, Sterkfontein, Afrique du Sud. Ça, c'est la reconstitution d'un crâne d'Australopithecus africanus de Schwarzkranz. Dans le domaine du temps, on est entre moins 2 et moins 3 millions d'années. Je me permets de vous faire remarquer que si on devait mettre sur la table et respecter le temps, là on est à peine 3 millions d'années, Toumaï à 7 millions d'années, hein, il faudrait aller, si on voulait respecter l'échelle du temps, aller beaucoup plus loin. Là on est un peu après Lucie. Lucie serait quelque part par là, quoi. D'accord ? Ceux-là sont ici pour des Australopithèques. Celui-ci, c'est Homo habilis. Celui dont on a dit que, dans le fond, est-ce que c'est un représentant du genre Homo ou est-ce que c'est encore un représentant du genre Australopithèque ? D'accord ? Vous voyez que, bon, quand vous les regardez comme ça, vous avez l'impression quand même que la coupure majeure se fait là. Les collègues qui disent que Homo habilis, on doit l'appeler Australopithecus habilis, traduisent de manière scientifique cette sensation que vous avez en regardant. Homo ergaster, Afrique, on est 1,8 million là. Le mot ergaster, on a vu que c'était un erectus ancien. Étant entendu que les erectus classiques, les voilà. Ça, c'est une reconstitution d'un crâne de Chukutien en Chine. Alors, là encore, ergaster, erectus, on en a parlé. Certains considèrent les deux espèces, d'autres n'en considèrent qu'une, et à ce moment-là, c'est erectus. Ça, c'est l'homme de Broken Hill, Afrique. Là, on a fait un bon... Ça, c'est aux alentours de 600 000 ans. Là, on est beaucoup plus haut dans le temps. On est 200, 300 000. Homme de Broken Hill, ce sont ces hominidés que j'ai appelés, avec d'autres, Homo heidelbergensis. D'accord ? On se rapproche considérablement de nous. Enfin, quand on était là, dans notre histoire, il y a eu des moments, des périodes, c'est important, et ça ne se voit pas du tout comme ça, il y a eu des périodes où cohabitaient plusieurs espèces d'hominidés. À l'heure actuelle, vous savez bien qu'on est tout seul, on n'est plus qu'une espèce. Là, il y a eu, dans ces périodes anciennes, des moments où il y avait plusieurs espèces d'hominidés. Je vous ai parlé d'un descendant récent de celui-là, d'un erectus, l'homme de Flores, Indonésie, nanisme insulaire, petit bonhomme d'un mètre. 18 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 18 000 ans, il n'y avait pas que des hommes modernes, il y avait aussi l'homme de Flores. Enfin, ceux-là dont on a tant parlé et dont on parle encore, les Néandertaliens, ceux-là ont cohabité avec nous et ils ont disparu. Les derniers, les plus récents connus, sont datés à 27-28 000 ans. C'est-à-dire que dans notre histoire, il y a très peu de temps que nous sommes seuls. Très peu de temps. Donc, de grâce, hein, je n'ai pas la prétention de vous montrer ça en 7 descendants. Hein. Mais je trouve que, par contre, si vous voulez, vous avez sur cette table, là, 3 millions d'années d'évolution humaine. Il se passe des choses quand même. Ce n'est pas forcément une révolution, mais enfin, vous voyez que l'évolution, il y a des choses qui se passent, quoi. Et je trouve qu'avoir les fossiles, enfin, ce sont des moulages, ça vous permet de mieux matérialiser les choses. Ce que je viens de vous dire, ben on le retrouve là sur ce tableau. En bleu sont toutes les espèces dont nous avons déjà parlé. En noir sont les espèces dont nous allons parler. Et dans les deux jeudis qui viennent, y compris celui-là et jeudi... Non, pas le jeudi suivant, c'est l'Ascension, le jeudi... J'ai failli faire encore une blague. Vous savez, c'est difficile hein, au mois de mai quand même, hein, reconnaissez. Hein. On a du mal à s'y retrouver. Hein. Il nous reste donc les Néandertals, dont on va parler aujourd'hui et la prochaine fois. Et puis après, on parlera de l'homme moderne, c'est-à-dire de nous. ces Néandertaliens, ils ont un certain nombre de caractères anatomiques dérivés qui les caractérisent parfaitement. Il y a des caractères sur le crâne. Ainsi, ces hominidés-là ont un crâne qui, quand vous le regardez en vue postérieure, est elliptique. Si vous regardez votre crâne, c'est pas très facile. En vue postérieure, je parle du crâne sec, hein, sans. Il n'a pas du tout cette forme-là. Notre crâne, à nous les sapiens, je vous ai déjà dit ça, a gardé la forme ancestrale. Il n'est pas dérivé quant à ce caractère. Il a gardé la forme pentagonale. Cette forme pentagonale que vous trouvez chez Erectus. Regardez, ça se voit bien. Regardez la crête de celui-là. Si je peux me permettre, il m'arrive des fois le soir de faire cela, quand vous prenez les transports en commun, aux heures de pointe, pour que le voyage semble plus agréable, alors que vous êtes complètement coincé, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez rien faire, mais vous pouvez regarder. Donc, vous pouvez faire de l'anthropologie biologique. Pardon, mesdames, mais ça se voit mieux chez les messieurs. Ceux qui sont de moins en moins chevelus. Eh bien, vous verrez que... Ah, ne venez pas me revoir la prochaine fois en me disant « j'ai pris le métro, j'ai regardé, j'ai pas vu ». Non, et il faut chercher. Mais vous trouverez des crânes actuels où il y a une fort belle carène au milieu du crâne. Hein, vous pourrez vous amuser à la sortie. Hein. Ça, c'est un caractère qu'on a hérité de cela des Erectus. Les Néandertaliens n'ont pas ça. Les Néandertaliens, ça, si vous faites la section, on dit qu'on a un crâne en tente. T-E-N-T-E. Là, le crâne en section est elliptique. Ça, c'est dérivé. Ça, c'est le caractère primitif, initial. Ce crâne, il est plat aussi, il est très platycéphale. Le post-crânien, on en parlera, mais vous verrez que le post-crânien, on a de fait un ensemble qui fait que les individus sont trapus. On en reparlera. L'ADN mitochondrial est bien... Catherine Henny vous a parlé de ça. Mode de vie, on se rapproche de nous. Ces hommes-là maîtrisaient le feu. Ces hommes-là étaient des chasseurs. Ces hommes-là avaient un régime carné, on verra ça. Ces Néandertaliens de cet âge-là, celui-là est célèbre, c'est l'homme de la Ferracie, pardon, de la Chapelle au Sein, excusez-moi, mais c'est aussi en Dordogne, et c'est lui qui a été, on a un squelette complet, et c'est lui qui a été l'objet d'une monographie par Marcelin Boulle. Et le pauvre, il avait des problèmes. Il était atteint d'une maladie qui avait fait qu'il avait perdu toutes ses dents. Ces gens-là avaient une certaine pratique de la, des soins des blessures. Enfin, ils enterraient leurs morts. Vous voyez le chemin parcouru depuis Toumaï. Alors, ces Néandertaliens ont aussi, c'est important de le rappeler, un intérêt historique. Parce que, de fait, les premiers restes de Néandertaliens qui ont été trouvés n'ont pas été trouvés en 1856, comme cette image l'indique, mais en 1825. Sauf que, en 1825, il y avait peu de gens qui croyaient à l'homme fossile, à l'existence de l'homme fossile. Vous savez, hein, à cette époque-là, ce qui était suivi, c'est, dans des pays comme le nôtre, la Genèse. Et donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu, etc. Et donc, quand on a trouvé ces ossements, on les a remis dans des tiroirs et on les a laissés là. C'était à Engis, E-N-G-I-S, en Belgique. C'est-à-dire que, de fait, l'homme de Néandertal, il devrait s'appeler l'homme d'Angis. En 1856, donc en août 56, dans le ravin de Néander, près de Düsseldorf, en Allemagne, on met au jour un certain nombre de spécimens. Et alors là, cette fois, on est prêt. Mais 1856, c'est 3 ans. Avant la publication par Darwin de l'origine des espèces. C'est-à-dire que les idées évolutionnistes vont prendre le pas. Il y a un tournant important dans la manière de penser à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, ces hommes de Néandertal sont avec eux qu'ont commencé le début de notre histoire. Avec eux, on a commencé à penser qu'on avait une histoire, qu'on avait des racines dans le temps. Mais imaginez, nous sommes en 1856, globalement, ça fait un siècle et demi. Je voudrais quand même vous laisser penser que sur une histoire qui a duré 7 à 8 millions d'années, à peu près, ça fait un siècle et demi qu'on pense qu'on a une histoire. Pendant tout le reste du temps, on a pensé qu'on n'avait pas d'histoire. Donc c'est quelque chose qui est récent et donc fragile. Et donc il n'est pas étonnant de voir des courants de pensée qui sont en désaccord avec cette manière de voir évolutionniste. Je vous ai mis cette carte pour une seule chose aujourd'hui, ce qui est plus sombre là, toute cette région, et cette région, c'est le territoire géographique occupé par les Néandertaliens. Il n'y a pas de Néandertaliens en Afrique, et ces Néandertaliens, vous voyez qu'ils sont limités à l'Europe, et ils vont jusqu'au bord de l'Asie occidentale. Mais ce sont des Européens. Alors, dans ces Néandertaliens, vous connaissez traditionnellement tous les sites qu'on a en France dans la vallée de la Dordogne. Hein ? Et quand on va dans cette très belle région, on comprend assez facilement que ces gens-là s'étaient installés dans un coin qui était plutôt sympathique. Eh oui, la vallée de la Dordogne, c'est magnifique. Bon, il s'est installé là, c'était pas si mal. Hein. Donc, ceci est important. Voilà leur territoire géographique. On verra, on en parlera ultérieurement. Ce sont des hommes qui ont vécu donc en Europe au moment des grandes glaciations. Ils ont eu à subir les grandes glaciations. Ils ont des adaptations au froid. Mais attendez, quand il faisait trop froid, bien, ils reculaient vers la région méditerranéenne. Leur répartition oscillait en fonction de l'avancée des glaciers. Alors, vous savez bien que sur ces Néandertaliens, on a raconté tout et n'importe quoi. D'abord, on a eu besoin de se rassurer, comme d'habitude. Et se rassurer comme on a cohabité, c'était globalement dire que nous, on était beaux et intelligents et que eux, bah, voilà quoi, hein, c'était le contraire. Plus simple. C'est sûrement pas comme ça. Regardez. Ils ont habité en Dordogne, hein, chez nous. Il y avait des coins en France qui étaient moins agréables que ça. Hein. Bon. Bon, là encore, alors, cet aspect du problème. J'ai invité une collègue qui viendra nous parler de ces aspects-là. Une collègue qui est directeur de recherche au CNRS et qui est à Marseille, qui connaît les Néandertaliens depuis fort longtemps et qui nous parlera de ces problèmes-là. Tout ce que je viens de vous dire, si on résume, eh bien, si on revient au départ, on a ceux qui sont au bout, là. Avant, on a les Australopithèques qui ne sont pas sur ce schéma. Puis, Ergaster erectus. Ces erectus, bah, quelque part par là, ils se terminent avec l'homme de Flores. À mon sens, on en retrouvera d'autres. Ailleurs, Je crois vous avoir dit que pourquoi pas dans la Méditerranée, hein? Pourquoi pas dans une île méditerranéenne? Oh, on aura encore beaucoup de surprises, vous verrez. Donc, pour le moment, ces Erectus et leurs descendants semblent s'être éteints il n'y a pas très longtemps. Hein. Florès, c'est une migration qui a dû intervenir entre 7 et 800 000 ans sur l'île de Florès. Donc, un petit bonhomme d'un mètre, c'est quelque chose qui a été obtenu en 7-800 000 ans, à peu près. Mais on en trouvera sûrement sur d'autres îles, sûrement. Les Néandertaliens, de leur côté, ben, vous les voyez là. Alors, ils sont limités au Moyen-Orient et à l'Europe. Alors, la délimitation sur le cours, pour celles et ceux d'entre vous qui regardent l'affiche, vous avez vu pré-néandertalien et néandertalien. Vous avez bien compris que vous avez une dérive évolutive dans le temps et que je vous ai dit, pour déjà un certain nombre de fossiles dont on a parlé, qu'ils présentaient des caractères néandertaliens. Par exemple, il y avait des caractères néandertaliens sur la face, mais ils n'avaient pas ce chignon occipital très proéminent, caractéristique des néandertaliens classiques. On retombe là sur les notions d'évolution en mosaïque, c'est-à-dire les différents caractères sur un individu donné n'apparaissent pas en même temps et à la même vitesse. Le crâne peut, par exemple, être en avance, évolutivement parlant, et les membres plus en retard, ou l'inverse. Et au niveau du crâne, vous pouvez avoir une face qui a déjà des caractères de néandertalien, alors que l'arrière-crâne n'est pas néandertalien. Alors, c'est une évolution continue et donc il est difficile de faire des coupures. Souvent, quand on a des belles séries de fossiles qui se succèdent dans le temps, vous savez comment on fait les coupures? Eh bien, souvent, ces coupures se font au moment où on a des lacunes de connaissances. Forcément, il y a un moment où on n'a pas de fossiles, et donc, entre le dernier fossile qu'on a et le premier suivant, il y a une lacune et on coupe là. Alors, on ne fait pas toujours comme ça, il y a des moyens d'éviter ça. Mais enfin, voilà à l'heure actuelle, je crois, si on regarde les choses dans leur ensemble, je pense que voilà ce que l'on peut dire. Alors, si on veut rentrer dans des détails, ça se complique énormément. Et alors, selon que vous suivez certains auteurs ou d'autres, si vous suivez les auteurs qui sont des rassembleurs, ça va simplifier. Si vous suivez les auteurs qui pratiquement font une pièce, une espèce, un fossile, une espèce, un fossile, une espèce, ça va se compliquer. Mais globalement, je trouve que cette représentation-là n'est peut-être assez proche de la réalité de ce que l'on connaît actuellement, étant entendu que les choses pourront changer en fonction des découvertes. Vous avez sur ce schéma un homme moderne. Regardez. Cet homme moderne, d'abord, il y a une différence sur la face. Les Néandertaliens ont une face en extension. Et au-dessus de la canine, on dit qu'ils n'ont pas de fausse canine. Attendez, fausse, F-O-2-S-E. Alors, c'est quoi la fausse canine ? C'est quelque chose de très simple. Si vous n'avez pas essayé, vous allez pouvoir essayer tout à l'heure en rentrant chez vous. Le premier chien que vous rencontrez, faites attention quand même, hein, parce que ça peut être dangereux. Vous l'embêtez un peu. Et avant qu'il ne prenne la décision de se défendre, il va, un, grogner, deux, retrousser les babines. On est d'accord ? Eh bien, au moment où il retrousse les babines, vous savez comment il les retrousse ? Eh bien, en mettant en action ses muscles canins. Donc, la fosse canine, c'est un endroit d'insertion du muscle canin qui est un muscle retrousseur des lèvres. D'accord ? Les Néandertaliens n'ont pas de fosse canine. Et parallèlement à ça, ils ont toute la face moyenne là, qui est complètement projetée vers l'avant. Nous, on n'a pas du tout cela. Ces hommes-là, ils ont un bourrelet susorbitaire très important. Alors, ce que je vous proposais de faire, les travaux pratiques d'anthropologie que je vous proposais de faire tout à l'heure, à Paris, dehors, Si, c'est intéressant. Hein. Moi, souvent, je m'amuse à ça. C'est étonnant, des fois. Vous n'allez pas trouver, vous n'allez pas voir quelqu'un qui a un bourrelet susorbitaire aussi important que ça. Non. Vous allez trouver des sapiens avec des bourrelets susorbitaires marqués, dans certains cas, mais jamais aussi important que ça. Par ailleurs, regardez ici sur l'homme moderne, vous voyez que vous avez un front qui est haut et très vertical. Regardez ici, vous avez le bourrelet et pratiquement vous n'avez pas de front, vous avez un front très fuyant, hein, très très fuyant. Au niveau de la région occipitale, regardez, vous avez une région occipitale qui est complètement arrondie, très différente de ces Néandertaliens. Vous avez une région occipitale qui est très pincée, hein, très pincée. C'est. La comparaison n'est pas très anatomique, mais bon, c'est plus en forme d'un ballon de rugby. Hein? Ce qui n'est pas du tout notre cas. Alors, sur le crâne, là, on le voit mal. On ne le voit pas, mais enfin, vous ne pouvez pas le voir. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous voyez que sur la mâchoire, là, d'un sapiens, vous voyez que vous avez là la branche montante de la mâchoire inférieure, de la mandibule, et vous avez là la dent de sagesse, la M3. Et il n'y a pas de place. Il n'y a tellement pas de place qu'on en a déjà parlé. Dans beaucoup de cas, on arrache maintenant aux jeunes les germes des dents de sagesse parce qu'elles n'ont plus la place de pousser. Eh bien, chez les Néandertaliens, en arrière de la M3, vous avez ce que l'on appelle un espace rétromolaire, qui est assez grand. Eux n'ont pas de problème de trismus, hein. Ils n'avaient pas besoin de se faire enlever les dents de sagesse. Enfin, quelque chose d'important, avoir un menton est un caractère moderne, d'homme moderne. Les Néandertaliens n'ont pas de menton. Voilà les principaux caractères. Je ne reprendrai pas les caractères de l'Homo erectus, mais vous voyez bien les différences entre l'actuel et lui. Et il est clair aussi que ces Néandertaliens sont très différents des Erectus. L'homme d'Heidelberg, on en a parlé. Cette image-là est l'image de ce crâne-là. On a déjà parlé de cela. Et, par exemple, sur ce crâne-là, et c'est pour ça que j'ai repris cette image, sur le crâne de Petralona, on est à 200 000 ans, on est en Grèce. Chez les Néandertaliens, ici, c'est la région des pommettes, c'est la région malaire. Nous avons des pommettes saillantes. Et on a un malaire qui est angulé, un peu, ici, plus là. Chez les Néandertaliens, vous n'avez pas cette angulation et la face est étirée vers l'avant. Et c'est cet étirement vers l'avant qui fait que vous n'avez pas de fosse canine. Donc vous avez un dispositif du massif facial qui est très particulier. Eh bien, chez Petralona, vous avez des choses de ce type. Notre invité d'aujourd'hui nous parlera sûrement de choses comme ça et de dispositions de ce type dans les sites de la Sierra de Atapuerca. Alors, sur ce schéma, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces crânes d'Erectus, vous voyez, tous ces crânes sont en vue postérieure, où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire des crânes qui ont une forme pentagonale en section. Voilà un crâne de Sapiens dans lequel vous retrouvez cette forme pentagonale. Alors, il y a une différence bien marquée entre le crâne d'Erectus, où la plus grande largeur du crâne est située à la base, alors que ici, chez le sapiens, la plus grande largeur était la largeur bipariétale. Vous vous rendez compte, c'est presque au sommet du crâne, quoi, hein ? Vous avez là, justement là, un crâne d'Atapuerca où vous retrouvez, voyez, ce schéma ancien, mais au niveau de la face, vous avez des caractères de face en extension. Ça, c'est l'évolution en mosaïque. Les caractères n'apparaissent pas en même temps. Et finalement, on va arriver à des Néandertaliens, vous voyez, qui ont un crâne de forme elliptique, globulaire, en bombe, j'aime pas tellement ça, mais pourquoi pas. Et c'est justement celui de la chapelle au sein, c'est celui-là. Voilà les crânes d'Atapuerca, quelques-uns. Je ne vais pas en parler puisque notre invité d'aujourd'hui vous en parlera. Ce qui est important, c'est que à la cima de los huesos, Juan Luis Arzuaga, avec son équipe, a mis là au jour une trentaine d'individus. C'est-à-dire que, à lui seul, il a récolté plus de restes qu'il y en a pour tout le reste. C'est absolument énorme. Et donc, ça permet forcément d'avoir des idées là sur ce qu'était une population et voir les variations. Alors, vous voyez, dans ces crânes, il y a des caractères qui sont restés primitifs, il y a des caractères qui sont des caractères dérivés néandertaliens. Parmi ces caractères dérivés, vous avez l'extension de la face, vous avez là un espace rétromolaire, je n'en dis pas plus, mais c'est clair, on est dans ces populations européennes pré-néandertaliennes. Voilà l'idée d'une reconstitution d'un crâne de néandertalien. Vous retrouvez là les caractères principaux, c'est-à-dire le chignon occipital, très fort. Vous retrouvez le torus susorbitaire, fort. vous retrouvez un frontal très fuyant. Vous retrouvez la face en extension, l'absence d'angulation du malaire et l'absence de fosse canine. Enfin, sur la mâchoire inférieure, vous n'avez pas de menton. Absence de menton. Voyez la différence par rapport à un homme moderne. Regardez la hauteur du crâne ici. Crâne très haut. Regardez la hauteur du crâne ici. Très platycéphale. Ici, vous avez une fosse canine, en arrière de la canine. Et vous avez un menton sur la mâchoire inférieure. Complètement différent. Alors, on peut visualiser cette extension de la face, c'est ce qui a été fait sur ces deux crânes. Voilà un crâne de Néandertalien avec cette face en extension qui a été visualisée par ce petit triangle noir. Et vous voyez là le crâne d'un homme moderne, robuste mais moderne. Vous voyez que ce petit triangle il est beaucoup plus réduit. Vous avez là un menton, vous avez là au contraire une symphyse fuyante vers l'arrière. Cette fois, vous voyez bien ici l'espace rétromolaire, c'est-à-dire tout l'espace que vous avez entre la dernière dent, la M3, qui est la dent de sagesse, et la branche montante de la mandibule. Vous retrouvez cette face moyenne très prognate, le chignon occipital, une mastoïde très développée, vous voyez que entre les Néandertaliens et les hommes modernes, les caractères sont très différents. Mais il faut noter que ces caractères que vous trouvez tous chez un Néandertalien classique, comme celui-là, ils apparaissent progressivement dans la population dans ce que j'ai appelé à tort ou à raison pré-néandertalien. Ici, à droite, eh bien, vous avez une comparaison néandertal-homme moderne qui vous montre tout ce que je viens de dire. Voyez ici peut-être mieux sur ce dessin la face en extension, l'absence d'angulation du malaire. Regardez ici, au contraire, cette angulation très forte, une pommette très saillante. Alors qu'ici, c'est absolument rectiligne. Enfin, ce que vous pouvez voir ici, c'est que les dents chez les Néandertaliens sont plus fortes, plus grandes, globalement, que chez les sapiens. Et enfin, aussi, au niveau de la structure des dents, les cavités pulpaires, vous voyez, sont différentes. Les Néandertaliens ont des dents à grande cavité pulpaire. On dit qu'ils font du thorodontisme, vous voyez, grande pulpe. Avec des racines soudées. autant de caractères qui se retrouvent à peu près tous chez les Néandertaliens classiques. Alors, dans le temps, eh bien, dans le temps, ça fait un créneau-temps qui est... Là, ça dépend, vous voulez faire commencer, vous voulez faire la coupure, mais aux alentours de 300 000 ans, les Néandertaliens classiques seraient plus autour de 100 000, et puis les derniers disparaissent vers 27 000, 28 000 ans. Ces hommes-là, il faut que vous les imaginiez plutôt trapus, avec une tête platycéphale, aplatie, un chignon occipital très fort. Les yeux sont aussi sur la face situés plus haut que les nôtres, qui est lié au fait que nous, on a un front très haut. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites et dites sur ces Néandertaliens. Pour certains, le cerveau était plus petit que le nôtre. Ça aussi, ça fait partie des caractères qui rassurent, sûrement. D'autres considèrent une moyenne de 1400 cm3. Pour d'autres encore, le cerveau est plus grand que chez l'homme moderne. On peut dire que ces hommes-là ont une capacité cérébrale qui est fort peu différente de la nôtre. De temps en temps plus forte, de temps en temps moins forte. Mais la variation est énorme chez les sapiens, hein, de 1000 à 2000 cm3. Hein, donc... L'industrie classique de ces hommes-là, c'est l'industrie moustérienne, c'est le biface moustérien. Là encore, si vous voulez, il y a deux questions qui sont posées depuis fort longtemps. Pourquoi les Néandertaliens sont éteints ? Pourquoi ? Et les Néandertaliens se sont-ils hybridés avec les sapiens ? Force est de reconnaître que si de nombreuses réponses ont été apportées à ces deux questions, le débat reste très largement, mais très largement ouvert. Par exemple, puisqu'on parle d'industrie, pour certains, ils ont été incapables de s'adapter à une industrie plus sophistiquée, ce qui aurait pu être une cause de leur extinction quand ils sont entrés en compétition avec les hommes modernes. Bon. Nous revoilà encore à Atapuerca. Alors là, je vais être court. Ces hommes-là, par leur caractère, sont sûrement très proches, quand on est à 300 000 ans, hein, sont sûrement très proches des Néandertaliens. Mais c'est quelque chose qui peut, à mon sens, être dit de la même manière pour l'homme de Totavel, à Perpignan. Bon, j'insiste pas sur Atapuerca. Alors, voilà. Un crâne là qui est un crâne de néandertalien classique, de Dordogne, la Ferracie. C'est comme la chapelle au sein. Sont les néandertaliens classiques avec tous les caractères. Sur l'afféracie, vous allez retrouver les caractères que vous avez sur celui-là, sauf que le crâne de l'afféracie a conservé ses dents, alors que celui-là a fait de son vivant une maladie qui s'appelle la gingivite expulsive et qui a fait que il a perdu la quasi-totalité de ses dents, ce qui a dû lui compliquer la vie à certains moments. Enfin, pour terminer aujourd'hui, si on refait le bilan de tous ces caractères. Alors, chez les Néandertaliens, vous avez une capsule cérébrale qui est platycéphale, qui est aplatie. Chez nous, elle est beaucoup plus haute. Capacité crânienne, vous voyez, 1300-1750. Ici, 900-2300, ça fait beaucoup de variations. J'insiste sur ce point, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Si. Et la qualité, c'est comme dans les ordinateurs, c'est un problème de connexion. Ensuite, le torus susorbitaire, il est fort et il est continu. C'est important, il est continu. Vous regarderez ce soir dans le métro ou dans les bus, si vous repérez un compatriote qui a un fort torus susorbitaire, pas un comme ça, non. Pas vrai. Si vous en avez, si y en a un comme ça, alors là, bien, vous regarderez bien. C'est pas continu ici, c'est discontinu. Chez nous, le torus susorbitaire est absent, voire peu développé, mais jamais continu. Vous avez, chez les Néandertaliens, vous avez un chignon occipital proéminent, on en a parlé. Chez nous, l'occiput, la région occipitale, est arrondie et il n'y a pas de chignon. Le basicrâne est relativement plat. Là, vous avez une angulation plus forte chez le sapiens. La plus grande largeur du crâne est à mi-hauteur chez les Néandertaliens. Là, la plus grande largeur du crâne, je vous ai montré tout à l'heure, est beaucoup plus haute. Ici, la face moyenne est en extension et très prognate. Ici, la face est orthognate, verticale dans son ensemble. Chez les Néandertaliens, pas de menton, un triangle mentonnier variable. Chez les hommes modernes, un menton bien développé. Des incisives plutôt grandes chez les Néandertaliens, plutôt petites chez nous. Le thorodontisme, je viens d'en parler, grande capacité pulpaire et racines soudées. Chez nous, il n'y a pas de thorodontisme. Les néandertaliens ont des os longs avec une corticale qui est moins épaisse que chez Erectus. Nous, on a un squelette qui est plus fin, moins robuste. On a des os longs qui sont plus courbes avec de grandes insertions musculaires. Ici, on a des os longs qui sont plus droits avec des surfaces articulaires qui sont plus petites. Enfin, au niveau de la main, au niveau de ce que l'on appelle la poigne, eh bien, si en partant tout à l'heure, vous serrez la main d'un néandertalien, faites attention à votre main. Il serrera plus fort que vous. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.